L'invité de cette deuxième heure des matins du samedi, c'est Joe Spiegel. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes maire de Kingersheim.
Merci.
Dans le Haut-Rhin, à quelques kilomètres de Mulhouse. Nous vous avons invité ce matin. C'est pour discuter donc de ces colères qui montent un peu partout en France. On en parle beaucoup. C'est la une de tous les journaux aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes à Kingersheim?
Pas ma connaissance, mais je pense qu'il y a un projet de... sur le site commercial de bloquer la circulation. Donc il y a, en fait, c'est pas un problème local, c'est un problème national, et on voit bien que cette colère n'exprime pas simplement un refus de l'augmentation du prix de l'essence. C'est beaucoup plus grave que ça. On a le sentiment que les gens aujourd'hui se sentent floués, un sentiment d'injustice fiscale, alors que...
Les gens qui ne voient pas la contrepartie des impôts qu'ils payent.
Ils ne voient pas la contrepartie, ils voient que 1% des plus riches, on leur supprime l'impôt sur la fortune, que pour 10% des plus riches, c'est la flat tax, et donc c'est le forfait d'impôt plus avantageux. Et pendant ce temps, alors qu'il y a 6 milliards de défiscalisation au sommet, à la pyramide de la société, les 20% des gens les plus modestes ont moins de revenus. Il y a vraiment un sentiment d'injustice fiscale. S'ajoute à cela la superposition à la fois des inégalités sociales qui s'accentuent et des inégalités territoriales. Dans la Meuse, un département que je connais bien, 78% des gens n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. 2% pour les transports collectifs. Donc il y a à la fois, on se sent floué parce qu'on est modeste, on se sent floué parce qu'on est dans la ruralité et dans la périphérie. Puis il y a une sorte de colère, je pense, qui ne s'exprime pas, qui fait partie de l'impensé. C'est que parmi les gens modestes, il y a une dignité incroyable. C'est des gens qui trop longtemps souffrent et à un moment donné, ça éclate. Et en fait, comme s'ils entendaient finalement, vous manifestez, mais vous êtes contre la transition écologique. Et donc, on les culpabilise. Il y a une sorte de, on est responsable de ça. Alors qu'en réalité, c'est les gens les plus modestes qui sont les moins responsables du réchauffement climatique. Et c'est ça qui est grave. Et donc, il y a un sentiment de culpabilité, un sentiment d'injustice. Tout cela ensemble fait qu'à un moment donné, c'est la goutte d'essence qui fait déborder le réservoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Joe Spiegel, vous semblez les comprendre à ce que j'entends de ce que vous dites. Est-ce que vous les soutenez pour autant? Est-ce que vous les soutenez même si certains manifestent contre l'impôt?
Je pense qu'il y a une impossibilité dans notre pays à visiter la promesse démocratique. La promesse démocratique, c'est d'une part le débat, renouer le débat et co-construire des solutions. Parmi ceux qui manifestent contre la hausse du prix de pétrole et des taxes, ils sont complètement conscients de l'impératif de la transition écologique. Parmi ceux qui militent pour la transition écologique, comprennent la question des inégalités. Comment, dans ce pays, on n'arrive jamais à se faire rencontrer les gens à un moment donné? Et moi, je pense que, et c'est à titre personnel, je pense qu'il faudra un jour qu'on arrive à ouvrir une agora sur l'écologie sociale et populaire.
Vous m'avez pas répondu. Transition écologique, inégalité sociale, certes, mais est-ce que vous soutenez ceux qui vont aujourd'hui faire des blocages au nom de, mais même pas du trop d'impôts, de l'impôt tout court, c'est-à-dire ceux qui ne veulent plus d'impôts en France?
Alors, moi, je vais vous parler vrai.
Il y en a, enfin.
Je pense qu'il faut éviter. D'abord, la présence des élus sur le terrain, je pense qu'ils y sont, ils sont à titre personnel. La pire des choses, c'est la récupération politicienne. C'est absolument inacceptable. Et je pense que la dignité du politique aujourd'hui, c'est de temps en temps prendre du recul. Prendre la distance à ce qu'on fait. On n'est pas seul propriétaire des transformations de notre société. Il y a les habitants, il y a les citoyens, c'est une ressource. Ce sont pas des adversaires, les citoyens. Ce sont des ressources humaines, des ressources de sens, d'intelligence, d'expertise et de colère. Et il faut donc avoir cette distance, ce respect, cette pudeur de prendre la distance par rapport à ça et apprendre à écouter.
Précisément le fait.
Apprendre à écouter.
Le fait, pardon, je vous écoute aussi. Mais précisément, Joe Spiegel, le fait que ce mouvement soit spontané, qu'il soit sans corps intermédiaire, sans organisation syndicale, ni parti politique et qu'il le refuse, est-ce que vous regardez ça d'un bon œil ou est-ce que vous êtes inquiet?
Mais bien sûr que je suis inquiet. Parce que si cette colère n'arrive pas sur un débouché de solution, on ne sait pas ce que ça va donner. Et d'une certaine manière, c'est aussi le résultat de la crise démocratique. C'est-à-dire que les gens ne sont jamais associés au processus de décision. À peine entendus. Et quand on leur donne quelques responsabilités, c'est un os à ronger. Après, c'est les techniciens, puis ensuite le politique tout seul. Et cette dimension oligarchique, cette dimension verticale du pouvoir, faut pas s'étonner qu'à un moment donné, à la base, on se révolte et qu'on a l'inquiétude de comment retricoter du lien social, retricoter du dialogue, refaire, donner à la démocratie toute sa promesse, c'est-à-dire à la fois apprendre à débattre, à refabriquer des idées, à co-construire des compromis dynamiques qui n'ont rien à voir avec des consensus mous qui se font dans l'entre-soi des élus, des compromis dynamiques. Et c'est cette dimension nouvelle qu'il faut, ça fait partie de la révolution démocratique pour laquelle je milite. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'anesthésie, dans la paresse démocratique. Et donc, et dans une dimension complètement descendante, oligarchie, jupitérienne.
Il l'a reconnu Emmanuel Macron, hein. Il a dit « je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants ».
Mais forcément, Emmanuel Macron, je pense qu'il a beaucoup d'intelligence. Et il se rend compte que le modèle démocratique qui a été adopté n'est pas le bon. Et peut-être qu'on se fait déborder quand on est président de la République. On habite la fonction, mais du coup, on est dans un régime présidentiel, alors qu'il faut réinventer un régime démocratique. Et c'est un des soucis de Place Publique. C'est comment refonder la démocratie, une vraie démocratie, c'est-à-dire vivante, continue, réelle, effective.
Place Publique, puisque vous l'évoquez, Joe Spiegel, c'est ce mouvement que vous avez lancé il y a quelques jours avec l'essayiste Raphaël Glucksmann, avec l'activiste des océans Claire Nouvian, ouais. Avec l'économiste Thomas Porcher et d'autres bien plus encore. C'est quoi ? C'est un mouvement citoyen ? C'est un think tank d'intellectuels ? C'est un parti politique ? Comment vous le vivez ?
Alors c'est d'abord la rencontre de personnes qui sont des porteurs de cause, qui font la démonstration que ce qu'ils font ça marche. Ensuite, place publique, entendez bien le nom place publique, il n'y a pas de mot en isme, c'est place publique, c'est-à-dire retrouver le sens de l'agora, apprendre à se parler, et nous accueillons toutes celles et tous ceux qui veulent à nouveau débattre. Deuxièmement, nous voulons refabriquer des idées humanisantes. Je pense que depuis les années 82, toute une partie des militants, des personnes, on s'est retrouvé thatchérisé en fait. On a baissé les bras. C'est ce que Raphaël
dit. Alors je vais m'arrêter sur tous les mots. C'est quoi les idées humanisantes et c'est quoi être thatchérisé?
Ah ben c'est faire face à la montée en puissance des gouvernements illibéraux, à trouver à nouveau une approche humaine avec l'humain au cœur du projet. C'est-à-dire on a d'une certaine manière démissionné depuis les années 80 des services publics, démocratie, la question sociale, et tout cela il faut le refonder. Donc c'est un travail important à partir de trois urgences. Et en fait ce qui va nous rassembler, c'est l'impératif de l'urgence. L'urgence climatique, les scientifiques en novembre 2017, 115 000 scientifiques. On dit que la question, c'est plus de savoir comment ça va arriver, c'est que ça va arriver. En 2030, c'est la bascule. C'est le caractère irréversible. Ça veut dire que nos enfants vont vivre des étés à 50 degrés et nos petits-enfants vont vivre une planète dans des conditions épouvantables. Il y a donc une éthique de responsabilité. Une éthique de responsabilité d'abord de ceux qui sont en responsabilité, comme les politiques que nous sommes. Et donc, on n'est pas dans le temps court d'une élection, on est dans le temps long de la conversion. Mais long, c'est 12 ans maintenant. On est dans l'idée du bien commun, c'est pas l'addition des intérêts du moment. Dans l'idée de la solidarité, c'est pas seulement entre gens de nous, mais c'est aussi demain pour les enfants qui sont à naître. Permettez-moi de vous dire que la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes responsables de milliards d'êtres à naître.
Donc urgence climatique, premièrement. Climatique.
Ensuite, l'urgence sociale. On voit bien comment accepter, enfin, il y a une sorte de soumission aujourd'hui. Comment accepter l'idée que des patrons touchent 400 fois le salaire des ouvriers? C'est quelque chose qui, c'est comme s'il y avait une sorte de fatalité. Or, la fatalité, c'est la seule fatalité, c'est l'inaction, c'est-à-dire que il faut agir aujourd'hui. Et donc, sur la question sociale, on voit bien Thomas Piketty, qui est reconnu dans le monde économique, disait que de 85 à 2015, eh bien, ceux qui sont aisés ont gagné 100% de revenus, les autres 25% en 30 ans. Donc, on voit les inégalités sociales. On voit la lutte contre les services publics qui ont été progressivement privatisés. Et puis la crise démocratique, excusez-moi.
Troisième urgence.
Salvini, Borsellino, Orban, tout ça, le schéma Renzi-Salvini, ça peut arriver en France. Nous, on va se lever. Il y a plein de gens orphelins de la dimension humaniste de l'engagement qui sont là, qui sont dans la demande. Et on sent cette demande aujourd'hui.
Juste pour bien comprendre, Joe Spiegel, où vous situez-vous, où, vous personnellement, alors vous avez rendu votre carte du Parti Socialiste il y a 3 ans, vous êtes sans étiquette, il me semble, aujourd'hui, mais où se situe ce mouvement Place Publique entre l'extrême gauche et l'extrême droite? Et Michel Viviorca, interviewé par le journal L'Opinion hier, à propos d'ailleurs des Gilets jaunes, disait en haut, on a une communication qui se cherche, en bas, on a les réseaux sociaux, et entre les deux, il y a le vide. C'est pour combler ce vide qu'existe Place Publique ?
Sans doute, si on prend une arithmétique électorale, si on se situe sur la question politique, oui, c'est dans ce vide-là qu'on veut réoccuper un espace politique radical et responsable. Alors, on va... Peu importe l'étiquette, je veux dire que trop souvent la gauche, quand elle s'est présentée comme la gauche, a été la gauche des certitudes, et on a vu ce que ça a donné. Eh ben nous, on est plutôt...
Mais on voit en même temps et de gauche et de droite qui a été beaucoup critiqué également.
On n'est certainement pas sur ce créneau-là. On est dans des acteurs de transformation réelle sur la question climatique, sur la question sociale et sur la question démocratique. Donc forcément, on se trouve pas à droite. Après, se dire de gauche, comme ça a pu être dit dans les années 80, moi j'ai participé à l'avènement de François Mitterrand, etc., et j'ai vu progressivement se dégrader nos convictions. Eh bien nous, ce qui nous rapproche, c'est une forme de sincérité, une forme de dire, au fond, on est candidat à rien. Aucun des porteurs de cause...
Pas aux européennes ?
Mais c'est même pas la question, c'est-à-dire, mentalement, on est candidat à rien. Moi, mon souci, c'est d'être demain un bon grand-père. Je suis grand-père de deux petits-enfants, mon choix personnel, c'est ça. Mais je veux aussi apporter ma contribution, comme tant d'autres, déçus depuis 30 ans, qu'on n'existe pas, qu'on est en effet les enfants du vide. Eh bien, il faut retravailler, refabriquer des idées, avoir le courage de ces idées-là, tout simplement aussi des valeurs. La fraternité, ça a du sens pour moi.
Joe Spiegel, votre premier meeting avec Place Publique a eu lieu il y a deux jours, c'était jeudi soir, à Montreuil. Pourquoi là ?
Parce que
me dites pas pourquoi pas.
Non, parce que la Marborie, je connaissais pas cet endroit et absolument ça nous ressemble. C'est quelque chose qui n'est pas terminé. C'est un lieu qui est populaire. C'est un lieu où on a envie d'être bienveillant. Et c'est ce que je disais à Claire Nouvian quand je suis descendu de l'estrade. Je dis si on garde cet état d'esprit, on va réussir. On va réussir.
Il y avait 700 personnes, dont quelques têtes d'affiche. Vous n'avez pas peur, un, de la récupération un peu bling-bling, deux, de l'image de bobo parisien. Vous dites, on n'est pas seulement entre nous, ça nous ressemble. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir un peu plus Place Publique ?
Je pense qu'il y a peu de mouvements qui sont autant ouverts au départ. Je pense à Olivier Dubuquois qui milite à Marseille contre les Bouts Rouges. Je pense à Charles Brenne sur la pêche durable. Je pense à Judith Akien qui a créé TOT pour une formation pour les sans-abri. Je pense à Vincent Carry qui est l'animateur des Nuits Sonores à Lyon. Je pense à Jérôme Carsanti. Je pense à Diane Filipova. Je pense à ces centaines de personnes qui sont révélées en quelques jours, 10 000 adhérents de partout. De ma commune, de Brest, de Nantes, du Sud, de partout. Notre problème aujourd'hui, c'est comment répondre rapidement à cette quête. Comment on peut être utile ? C'est ça qu'ils nous disent. Comment on peut être utile ? C'est vraiment une bouffée d'oxygène. Comment on va s'organiser ? Évidemment, aujourd'hui, notre souci, c'est de nous organiser, de nous structurer, de garder l'état d'esprit de l'enthousiasme, de ne pas se fossiliser, et puis d'aller sur les territoires, et ça va être un mouvement ascendant. Pour nous, ce qui est important, c'est la dernière chose importante, c'est que le mouvement est ascendant. On part de ce qui marche localement. On part des innovateurs démocratiques, des acteurs de la transformation sociale, des prophètes et des petites mains de la conversion écologique. On part de l'action des 550 000 élus locaux et leurs collaborateurs, qui sont des fantassins de la République, pour faire monter ça, réussir le changement d'échelle, et consolider une vision commune du monde.
Est-ce que les gens vous suivent, Joe Spiegel ? Parce que vous êtes maire depuis 1989 de Kingersheim. Votre ville compte 13 000 habitants. Ça fait donc des années que vous réfléchissez à cette façon d'associer les administrés aux décisions et aux projets communs. Vous en avez même fait des livres, en effet. Le dernier, c'était « Et si on prenait enfin les électeurs au sérieux ?» On voit l'importance que vous accordez au travail avec les gens et pas au travail pour les gens. Mais au premier tour de la présidentielle dans le Haut-Rhin, Marine Le Pen a obtenu 27% des voix et presque 30% à Kingersheim avec un taux de participation de 80%. Donc là, les gens se sont déplacés. Est-ce que les Kingersheimois et les Kingersheimoises viennent régulièrement dans les conseils participatifs et vous suivent, vous, dans vos décisions ?
Il y a une part d'échec, claire. C'est-à-dire, celles et ceux qui se déplacent sont globalement les inclus. Donc la démocratie construction aujourd'hui est d'abord portée par les gens qui se sentent à l'aise. Et pour moi, c'est un échec. C'est-à-dire que Et pourtant, on a pris des initiatives régulièrement qu'on appelle les Olympiades de la démocratie pour chercher les invisibles. Et donc, on a encore à trouver. Et moi, je le dis clairement, on est au début de début. Hein, je le dis avec beaucoup d'humilité. Tout le travail qu'on fait, c'est comment associer les citoyens et tous les citoyens. C'est compliqué parce qu'il y a une sorte de biberonnage qui fait que l'élection, c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Et puis aussi, les gens ont leurs propres problèmes. Les gens qui ont des fins de mois difficiles, ils se disent, mais moi, j'ai élu mon maire, il se débrouille. Et ils ont peut-être sans doute raison. Mais le problème, c'est que j'ai tellement de respect. J'ai tellement la conviction que chaque personne a un potentiel citoyen, qu'il existe, qu'il peut participer par son intelligence, parce que chaque citoyen a une intelligence qui lui est propre, une expertise. C'est tellement important que, pour mieux décider ensemble, pour susciter l'intelligence collective, pour faire que notre société soit davantage portée par l'intérêt général. Parce qu'au fond, l'intérêt général, c'est pas par les discours qu'on va le développer, c'est par la pratique, en invitant les gens à cheminer avec nous dans la complexité d'une décision publique. Et c'est là qu'on diffère des extrémistes, des populistes, des démagogues. Nous pensons que la radicalité responsable en démocratie, c'est inviter les gens à faire ce parcours avec nous de la complexité. Et c'est toute la difficulté. Comment parler simple sans tomber dans le simplisme et comment associer dans des séquences fructueuses les gens le plus nombreux possible pour prendre la meilleure décision possible. Je pense qu'on ne s'est pas trop planté à Kingersheim parce que les décisions qui ont été prises, ce n'est pas sorti de la tête du maire. Évidemment, il y a des intentions, on a un contrat municipal, mais parce que ça a été mûri. Il y a la maturation, j'aime bien ce mot-là. Il y a un cheminement partagé avec les habitants, quel qu'il soit. Et c'est là que, d'une certaine manière, on trouve la vraie politique. Non pas l'aspect politicien, je sais pas qui vote pour moi quand ils viennent dans le conseil participatif. Mais je sais que quand ils viennent dans l'espace public, ils sont citoyens. Et l'idée, c'est qu'on ne naît pas citoyen, on le devient. Et bien, le rôle du politique aujourd'hui, c'est de permettre la renaissance citoyenne. L'éveil citoyen, c'est toute notre démarche à nous. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Si c'est pas ça, demain, c'est les populistes. C'est le noir qui va l'emporter sur l'espérance.
Joe Spiegel, jeudi, le Cevipof...
Quand je dis le noir, c'est pas la couleur des gens, évidemment.
On a bien entendu. Jeudi, le Cevipof, le Centre d'études sur la vie politique française, a rendu une enquête sur les maires, M-A-R-E, sur vous. Oui. Et cette enquête montre que la moitié des maires de France ne prévoit de ne pas se représenter en 2020. Une enquête qui a été rendue publique et diffusée dans le journal Le Monde, datée de vendredi. Heure et malheur des maires de France. Vous situez où, vous, maire, depuis 1989? Vous êtes un maire heureux? Vous êtes un maire malheureux? Vous êtes un maire en colère? Vous êtes bien à votre place aujourd'hui encore?
Non, je suis à la fois en colère parce que je trouve qu'il y a... Il y a beaucoup trop d'inégalités, en colère parce que on n'écoute pas assez les gens, mais en maire enthousiaste, c'est mon cinquième mandat, j'arrête dans un an et demi, et je pense que on est avec d'autres élus en train de travailler sur des fabriques de transition démocratique, ça mettra du temps comme la transition écologique, mais comme toute transition, ça nécessite une pensée, une vision, une volonté politique forte, et je comprends un certain nombre de maires qui en ont marre. Parce que je pense aussi, je le dis avec beaucoup de vérité, il y a aujourd'hui un déficit sur la question du bien commun et du commun. Et c'est le fruit du libéralisme, de la marchandisation des consciences. On a eu comme horizon l'individu, comme tout horizon, comme horizon de tout, c'est-à-dire les consommateurs, les clients. Eh bien moi, je considère que ma responsabilité, c'est pas de m'adresser à des consommateurs électeurs de Kingersheim, mais à les considérer comme des citoyens à part entière. C'est ce cheminement qui nous intéresse.
Joe Spiegel, près des trois quarts des maires se déclarent quand même satisfaits ou très satisfaits de la vie qu'ils mènent, mais certains, et je reprends ce que vous avez dit, en ont marre. C'est d'ailleurs moins qu'ils en ont marre qu'un souhait de privilégier la vie personnelle et familiale dans l'enquête du Cevipof, mais c'est aussi en creux la tension entre le sens du devoir et l'impatience d'une fin de mandat. 36% des maires expliquent avoir de plus en plus de difficultés à satisfaire les demandes de leurs administrés, comme si les administrés étaient de plus en plus exigeants. Est-ce que vous le ressentez, ça ?
Bien sûr, mais ça rejoint en fait la démocratie construction met en exergue deux, trois choses importantes. La question du commun. C'est pas l'addition des envies, c'est pas la sommation des égoïsmes, c'est pas une moyenne des avis. La deuxième chose importante, c'est la limite. Mais les gens le savent, au fond, qu'il y a une limite dans leur vie personnelle, face à l'hubris, face à la démesure, il y a une limite aussi, un cadre démocratique. Mais à force de se présenter candidat comme magicien et d'être dans l'échec lamentable dans les promesses non tenues, eh bien, les gens croient plus à ça. Et puis la troisième chose importante, c'est la transcendance républicaine. Comment dépasser le candidat? quant à soi. Et c'est à cela qu'on doit travailler. Comment refonder du lien social, du lien civique? Et c'est sans doute une des priorités. Et c'est la question la plus difficile, parce que autant on peut mettre en agenda la construction d'équipements sportifs, culturels, autant l'investissement dans la pierre, c'est jouable, à condition qu'on continue pas à diminuer les dotations, ce qui est absolument très très grave en ce moment. Mais le plus difficile, c'est comment créer un sursaut de ce qui ressemble à la France, c'est-à-dire le vivre ensemble.
La semaine prochaine se tiendra le congrès des maires de France, de mardi à jeudi, dans un contexte assez tendu entre l'État et les collectivités territoriales. Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'irait pas, alors qu'il avait promis d'y aller l'an dernier, d'y retourner, enfin d'y être cette année. Est-ce que vous regrettez cette absence du chef de l'État ?
Je pense que c'est dommage, oui, parce que les élus ont besoin de rencontrer le président, l'entendre dire que sur un certain nombre de points il s'est planté, clairement, que le mouvement qui va marcher en France, c'est pas le mouvement du haut vers le bas, c'est le mouvement du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'il faut enfin considérer que les élus locaux, communaux, communautaires, communautés d'agglomération, départements régionaux, portent des solutions. C'est la République des solutions. Et donc, il faut arrêter ce mouvement du haut vers le bas, condescendant. Il faut prendre en compte ce qui marche sur le territoire et le transmettre à plus grande échelle et réussir ce changement d'échelle avec les élus locaux et les citoyens.